Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la justice internationale. L'adjectif historique est souvent revenu pour caractériser le procès de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré, condamné le 30 mai dernier à Dakar à la prison à vie pour des crimes contre l'humanité commis durant sa présidence de 1982 à 1990. Un procès historique pour l'Afrique qui, pour la première fois au nom de la compétence universelle, jugeait un ancien dirigeant africain pour des crimes de droit international commis dans un autre État que celui où il a été jugé. Un précédent avec ou sans lendemain, la question se pose. La compétence universelle, un instrument qui avait déjà été utilisé en 1998 par le Royaume-Uni dans l'arrestation de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. Regard sur les grandes questions que pose la lutte contre l'impunité dans le monde. Nos invités, Christine Larocque, juriste spécialisée dans les droits de l'homme au sein de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Bonjour.
Bonjour.
Simon Forman, avocat, président pour Amnesty International, de la Coalition française pour la Cour pénale internationale. Bonjour.
Bonjour.
Et Joseph Bréham, également avocat, enseignant en droit international pénal à l'Université de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Que vous inspire à chacun l'affaire Hissène Habré, ancien président tchadien jugé au Sénégal où il avait trouvé refuge? Est-ce qu'on peut parler de tournant vers une justice internationale? Et au-delà, qu'est-ce que l'on peut dire quant aux motivations pour un pays comme le Sénégal dans l'aboutissement de ce procès?
Tournant, je ne sais pas, parce
Simon
que
Forman.
C'est pas la première fois qu'un chef d'État est conduit à rendre des comptes devant la justice, pas de son pays, mais devant une enceinte judiciaire de la manière dont il a massacré sa population. Vous avez fait référence à Pinochet. En 98, il y a eu Milosevic, il y a eu Charles Taylor, il y a Gbagbo qui est en train d'être jugé à La Haye. Donc c'est plutôt une confirmation d'une tendance lourde qui a démarré il y a bien une vingtaine d'années, 15-20 ans. On est dans une ère où il n'y a plus d'impunité pour les grands criminels qui croyaient jusqu'à présent pouvoir s'abriter derrière la souveraineté de l'État, derrière leurs fonctions officielles. Non, il n'y a plus de fonctions officielles qui vous mettent définitivement à l'abri.
Joseph Bréham.
Je partage intégralement le constat de mon confrère, mais j'ajouterai une petite pointe de regret, c'est que 90 pour Hissène Habré, de mémoire, peut-être qu'il est parti du pouvoir en 91, 26 ans. Mmh. 26 ans avant que, enfin, ce que tout le monde savait, ce que tout le monde avait documenté depuis très longtemps. Alors, la justice a été faite et c'est très bien, mais 26 ans avant que, enfin, il réponde de ses crimes. C'est le seul regret important que m'évoque cette affaire Hissène Habré.
Christine Larocque.
Alors, moi, je serais positive, un peu plus positive. C'est quand même la première fois qu'un chef d'État est condamné sur le fondement de la compétence universelle, puisque les cas que mentionnait Simon Forman, c'était devant des tribunaux pénaux internationaux. Donc, c'est la justice d'un pays qui s'est saisie de cette affaire. Alors, saisie, c'est un grand mot, puisque c'est plutôt sous pression que le Sénégal s'en est emparé. Les victimes se sont battues pendant donc plus de deux décennies pour obtenir ce procès d'abord et ensuite cette condamnation en mai dernier. Donc c'est un combat très long. Et le Sénégal a été, les différents gouvernements qui sont succédés ont subi un certain nombre de pressions diplomatiques, notamment la Belgique a joué un rôle important parce qu'elle a voulu, elle a demandé l'extradition d'Hissène Habré qui s'était réfugié au Sénégal. Et c'est parce qu'elle demandait cette extradition que le Sénégal a dit « Ok, on va le juger ». Mais voilà, un très très long combat, mais une très belle victoire, c'est le Sénégal. Ce n'est pas un pays européen ou occidental, alors qu'on dit souvent que la justice internationale est menée par des pays occidentaux. Donc c'est un très beau symbole.
Joseph Bréham.
Je voulais simplement ajouter qu'aujourd'hui au Tchad, on sait qu'il y a président qui a pris la suite de M. Hissène Habré, qui était son bras droit. Et on sait que depuis des années et des années, il commet des exactions qui sont peut-être pas aussi importantes en proportion que celles de Hissène Habré. Et on sait aussi que, alors que le Sénégal a réussi à juger Hissène Habré, la France a beaucoup de mal à juger son successeur pour des crimes qui pourtant sont documentés. Je pense à l'affaire Ibni, entre autres, où une plainte a été déposée et est en cours d'instruction depuis fort longtemps maintenant, devant les juridictions de Paris, où je pense à monsieur Yorongarn Garleji, qui en même temps que monsieur Ibni avait été kidnappé, torturé, et qui attend toujours la moindre justice d'un pays occidental alors que le Sénégal, lui, a réussi à faire. Avec des pressions, certes.
Alors, la compétence universelle, c'est un vieil outil qui se place au niveau national, contrairement à la Cour pénale internationale qui, elle, œuvre, et je parle sous votre contrôle, au niveau international, comme son nom l'indique. C'est également un instrument assez controversé et relativement restreint, dont certains pays se méfient ou évitent. J'ai deux exemples en tête. La France et l'Espagne, cette dernière qui a par ailleurs été pionnière en la matière. Qu'est-ce qu'on peut dire des évolutions de la compétence universelle? Elle existe depuis des décennies, mais elle était rarement utilisée il y a quelques années. Simon Forman.
On est dans un domaine où le droit international cherche ses marques. Par moment, il avance, par moment, il recule. La compétence universelle, on est là-dedans. C'est quelque chose qui existe dans l'esprit des juristes depuis très très longtemps. Ça a été inventé au départ, je crois, pour lutter contre la piraterie maritime. Tous les États se reconnaissaient compétents pour juger les pirates, pour la fausse monnaie également. Bon. Depuis 20-30 ans, il y a un mouvement pour essayer de rendre ce mécanisme opérant en matière de répression, de ce qu'on appelle de manière générale les crimes internationaux. Nationaux, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Dans les conventions de Genève, tous les États qui ont ratifié les conventions de Genève, et la France en fait partie, s'engageaient à utiliser leurs compétences universelles pour juger eux-mêmes, puisqu'il n'y avait pas encore à l'époque de justice internationale, les auteurs de crimes de guerre. Bon, il n'y a jamais eu de mécanisme international obligeant les États à aller dans cette direction. Donc certains sont allés plus vite que d'autres, certains sont allés très loin et ont fait un peu marche arrière. La France, elle est plutôt dans le camp des États qui traînent les pieds et qui vont à reculons.
Alors justement, il y a un certain nombre de choses qui bloquent en France, on peut peut-être le développer, des verrous à faire sauter. En tout cas, aujourd'hui, la compétence universelle en France ne peut pas s'exercer. Christine Larocque.
Alors, aujourd'hui, la compétence universelle existe pour le crime de torture, par exemple, et disparition forcée. Donc, les tribunaux français peuvent enquêter, poursuivre et juger des faits de torture ou disparition forcée, par exemple, qui ont été commis donc dans un pays à l'étranger, une victime étrangère, l'auteur est étranger. Il n'y a donc aucun lien avec la France. C'est théoriquement, juridiquement possible. C'est également possible pour les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, commis pendant le génocide rwandais en 1994, parce que nous avons un accord de coopération avec le tribunal international pénal du Rwanda. D'où s'est déroulé l'année dernière un premier procès d'un génocidaire rwandais, et actuellement, deux autres personnes sont jugées devant le palais de justice à Paris pour des faits similaires. Cependant, pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des génocides qui seraient commis ailleurs dans le monde, aujourd'hui, c'est impossible. Les crimes sont définis en droit français, mais le législateur, et évidemment derrière le gouvernement, a très peur de voir ces affaires arriver en France, et donc a mis en place des verrous dans la loi pour empêcher toute poursuite devant les tribunaux français.
Alors justement, Joseph Braham, ce qu'évoquait à l'instant Christine Larocque, possibilité pour les questions de torture. Il est évident que dans cette question de la compétence universelle et de l'intrusion finalement de la justice dans les relations internationales, qui fait de la justice finalement un nouvel acteur, entre guillemets, il y a les diplomates. Alors sur la question française, il y a eu une brouille entre la France et le Maroc en 2014 avec une juge d'instruction française qui avait demandé à auditionner le patron du contre-espionnage marocain qui était alors en visite en France, qui était visé par plusieurs plaintes pour torture. En réaction, Rabat avait suspendu sa coopération judiciaire avec Paris, laquelle finalement fut réactivée en juin 2015. C'est une illustration parfaite de ces difficultés. Est-ce que la compétence universelle...
C'est une illustration parfaite de ce que les tortionnaires ou les hommes au pouvoir, en tout cas, enfin, vont utiliser tous les leviers, tous les ressorts qu'ils possèdent pour que leur impunité puisse continuer à perdurer. Et c'est aussi une illustration parfaite, je crois, puisque vendredi 10 juin, la Chambre de l'instruction de Paris a rendu une décision autorisant la constitution de partie civile, ou plutôt recevant la constitution de partie civile de M. Nama Asfari et de sa femme. C'est aussi une illustration parfaite donc de ce que, malgré les pressions, eh ben, en France, on peut, avec acharnement, avec difficulté, avec retard, parce que justement ces pressions bloquent les choses, mais on peut réussir à obtenir des enquêtes et à ce que l'impunité recule. En tout cas, on peut l'espérer, c'est que le début du chemin. Mais surtout, je crois qu'il faut bien comprendre, et vous l'avez dit au départ, que l'idée évidente, absolument évidente de justice pour tous, que l'on soit un sans grade ou un très haut placé, eh ben, elle dérange les hommes et les femmes au pouvoir. Et que, bien évidemment, toute une série d'autocrates dans tous les pays du monde préféraient, pour eux, c'était mieux avant, entre guillemets, le avant où on pouvait torturer tranquillement. Et puis, quand on perdait le pouvoir, on était simplement obligé de passer la frontière pour aller être hébergé dans le pays voisin. Ben non, ça c'est fini. Et ça, je crois que c'est une donnée que ça y est, enfin, heureusement, pas assez, mais que enfin les pires dirigeants ont intégré. Alors ça peut avoir des effets paradoxaux, mais ça existe, ça fonctionne. On ne peut que s'en réjouir.
Simon Forman, un commentaire.
Oui, je crois que ça illustre cette comparaison entre la torture pour laquelle la France reconnaît sa compétence universelle et les crimes contre l'humanité pour lesquels elle ne la reconnaît pas. Ça illustre ce mouvement d'avancée et de recul que j'évoquais tout à l'heure. Dans les années 90, la France a eu le courage de voter une loi qui se dotait de compétences universelles en matière de torture. On est 20 ans plus tard, elle n'a pas ce même courage en matière de crimes contre l'humanité, de génocide, avec ce résultat complètement absurde que si vous avez... Alors, c'est toujours délicat de hiérarchiser la gravité des faits et je cherche pas du tout à dire que la torture n'est pas quelque chose de grave. C'est un crime international et c'est évidemment quelque chose qui mérite d'être réprimé universellement. Les crimes contre l'humanité le méritent a fortiori. Et on a ce mouvement de crainte. Vous avez parlé tout à l'heure des verrous. On va pas faire trop de juridisme, mais un verrou symbolique qui est très important, c'est que dans la loi française aujourd'hui, on dit on exercera notre compétence universelle que en donnant la priorité à la Cour pénale internationale, si celle-ci ne se saisit pas d'un dossier.
On se renvoie la balle.
On se renvoie la balle, alors que la construction de cet ordre juridique international de répression des crimes contre l'humanité, depuis 20 ans, le mouvement, c'est de dire on crée certes une Cour internationale, mais cette Cour à La Haye, elle a que 18 juges, elle est capable de juger 3 à 4 dossiers par an. Le reste, le gros de la répression de ces crimes internationaux, doit être assuré en premier lieu par les États devant leurs propres tribunaux. Donc cette compétence universelle des tribunaux des États, elle est dans la logique de la construction de ce mécanisme et on n'y arrive pas. Et l'autre verrou que je citerai sans être exhaustif, mais qui est aussi très très parlant, c'est on exige pour pouvoir juger quelqu'un en France qu'il installe en France sa résidence habituelle. C'est-à-dire que Pinochet, qui s'est fait arrêter en Angleterre en 98 sur mandat d'arrêt d'un juge espagnol, c'est
Garçon.
Intéressant de voir que c'est vraiment une coopération internationale. Il était à Londres pour se faire soigner dans une clinique. On n'a jamais exigé qu'il installe à Londres sa résidence habituelle. En France, si, on ne pourra pas vous poursuivre si vous n'installez pas en France votre résidence habituelle. Messieurs les dictateurs, venez chez nous, mais n'y restez pas plus de 6 mois par an, vous serez tranquille.
Bon, ça, ce sont les avocats qui ont trouvé une parade pour permettre à la France de se défausser sur cette question de la compétence universelle.
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le législateur, ce ne sont pas les avocats, c'est la loi qui est ainsi faite, c'est le Parlement qui a eu peur tout d'un coup, au moment de franchir le pas, n'a pas osé le faire et a mis cette ceinture de sécurité pour se dire pourvu que ça n'arrive jamais, donc on a mis ce genre de conditions.
Joseph Bram.
Oui, puis ce qui est d'autant plus paradoxal, je reprends la notion de compétence universelle en cas de torture simple et en cas de torture crime contre l'humanité. Parce que la torture peut être un des éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Si vous êtes victime de torture simple, c'est-à-dire sans le plan préétabli pour détruire une part de l'humanité, eh ben, vous pouvez être recevable dès lors que le tortionnaire a mis un pied sur le territoire français. C'est un des motifs pour lesquels nous avions déposé contre le patron des services de sécurité marocains. On savait qu'il avait un pied sur le territoire français, pas besoin de résidence, tel que c'est interprété. On dépose plainte, la plainte devrait être recevable. Alors que si jamais vous êtes victime d'un plan concerté et que vous êtes victime de torture dans le cadre de ce plan concerté, eh bien là, il va falloir réussir à démontrer que le chef de l'État ou que la personne en tête a une résidence stable en France. Plus de 6 mois par an. C'est absolument délirant. On est plus facilement sanctionné si on est un petit auteur de torture que si on est l'auteur d'un plan de masse de torture. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, en tout cas, pour le cas français, ce qu'on voit, c'est que, et c'est ce qui est dit et ce que j'ai lu pour le cadre de la préparation de cette émission, finalement, c'est le Quai d'Orsay qui s'oppose depuis plus de 3 ans au vote par l'Assemblée nationale, puisque ça a été voté au Sénat, pas encore à l'Assemblée nationale. C'était une promesse de François Hollande, candidat à la présidence en 2012, Simon Forman, que de faire en sorte que la législation...
Oui, c'était une promesse qu'il a faite à la CAT, dans un courrier pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Il a dit, cette loi de 2010 qui met tous ces verrous, toutes ces restrictions, moi, président, je la supprimerai. Bon, il l'a pas dit dans ces termes-là, mais c'était ça. Et effectivement, quelques mois après son élection, un sénateur socialiste, Jean-Pierre Sueur, qui était à l'époque président de la commission des lois du Sénat, a rédigé et déposé avec l'ensemble du groupe socialiste du Sénat une proposition de loi qui supprimait ces restrictions, qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Avec un bémol que nous on regrette, c'est qu'à l'occasion de ce vote, le Sénat a tout de même maintenu un de ce qu'on appelle les verrous, c'est-à-dire qu'il a maintenu le monopole du parquet. Une victime ne peut pas toute seule provoquer des poursuites, il faut qu'elle convainque le parquet de le faire. Bon, si je mets ça de côté, le Sénat a adopté à l'unanimité en février 2013 la levée de ces verrous. Et depuis février 2013, on attend que le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la maîtrise pour l'essentiel de l'ordre du jour du Parlement, admette que ce texte mérite aujourd'hui d'être voté par par l'Assemblée nationale, puisque pour que ça devienne une loi de la République, il faut qu'elle soit votée par les deux chambres. Et depuis 2013, le texte ne vient pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, selon les échos que nous avons, essentiellement parce que le ministère des Affaires étrangères, effectivement, n'en veut pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, le juge est un nouvel acteur dans les relations internationales, et c'est quelque chose de très difficile à accepter pour les diplomates. Les militaires qui ont été longtemps avec les diplomates les seconds grands acteurs des relations internationales sont apparemment un peu plus audacieux, moins réticents. Il n'y a pas d'opposition connue de notre part, en tout cas du côté du ministère de la Défense, mais le Quai d'Orsay trouve que la loi est assez bien faite telle qu'elle est.
Christine Larocque. Ce qui est assez intéressant de souligner également, c'est que donc le Quai d'Orsay, clairement, aujourd'hui, s'oppose à cette loi. Mais par ailleurs, on voit dans la presse, dans les médias, ou même au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, le Quai d'Orsay porte-parole de la justice internationale. Lorsque Laurent Fabius était donc encore ministre, il s'est ému de la situation en Syrie, notamment en publiant une tribune dans Le Monde il y a 2 ans, je crois, mais il a également publié d'autres discours à ce sujet, réclamant une justice internationale pour les crimes odieux, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les actes de torture commis en Syrie. On ne peut évidemment que soutenir sa position, mais pour autant, donc, il demande une justice internationale pour ces crimes commis en Syrie, mais s'oppose à ce que la France juge ces crimes parce qu'il ne veut pas adopter cette loi.
Du deux poids deux mesures, on l'a Exactement. Bien compris. Et puis évidemment, des questions d'intérêt économique, diplomatique. Je pense à l'affaire franco-marocaine. Je veux dire, il est plus facile peut-être de condamner des gens en Syrie avec pays avec lequel les relations sont différentes qu'avec le Maroc. C'est cela qu'il faut entendre peut-être, Christine Larocque.
Exactement. Il y a une crainte que les victimes instrumentalisent la justice française en venant en France déposer des plaintes contre de hauts responsables étrangers. Et on voit que finalement, est-ce que c'est pas le moment inverse, puisque en septembre dernier, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, la France soudainement annonce que les juges français vont enquêter sur des crimes commis en Syrie, parce que à l'époque, ils voulaient exclure Bachar al-Assad des négociations. La Russie essayait de le ramener. Il y a un jeu de dupes un peu là-dedans. On refuse certaines choses, on avance sur d'autres quand ça nous arrange, et ils se retrouvent complètement piégés. Ils ont annoncé donc que des enquêtes préliminaires sur des actes de torture et des crimes de guerre commis en Syrie, mais ils n'ont pas adopté cette loi. Et donc, ils sont un peu piégés, ils sont un peu bloqués actuellement, puisqu'ils cherchent du coup désespérément des victimes françaises, parce qu'il faut un rattachement avec la France. Donc voilà, c'est un peu, on marche un peu sur la tête, on a des beaux discours, et dans les actes derrière, c'est un peu compliqué tout ça.
Alors, il sera intéressant peut-être de développer. Alors, Joseph Braham.
Excuse-moi, je voulais juste préciser qu'en plus, dès qu'on parle de justice internationale, ou de justice pour des crimes internationaux au moins, le MAE, le ministère des Affaires étrangères, devient central. Un exemple, la question des impunités. Des immunités, pardon. Excusez-moi, même si immunité est souvent égale à impunité. Mais bon, c'est le ministère des Affaires étrangères qui les reconnaît, les immunités. Qui, à travers toute sa mécanique, reconnaît que, oui ou non, telle ou telle personne envoyée a une immunité fonctionnelle, une immunité spécifique pour sa mission, etc., etc. Donc, il délivre un blanc-seing. J'ai en tête un représentant d'un émirat ami qui est venu en France. Le bruit a couru qu'il allait arriver sur le territoire français. Donc, certaines associations, avocats ont fourbi leurs armes, ont préparé les plaintes. Et au dernier moment, on a découvert que parce qu'il allait voir un vague maire probablement très important et très intéressant, mais tout d'un coup, hop, alors qu'il venait pour un motif purement personnel et civil, eh bien on lui attribuait une immunité personnelle de mission. Tout ça, ça sent la complaisance à plein nez. J'ai en tête aussi d'autres cas où, comme je le disais tout à l'heure, pour que la compétence universelle en matière de torture soit reconnue, il faut démontrer que la personne avait, au moment du dépôt de plainte, à la seconde où la plainte est reçue par le parquetier, le pied sur le territoire français. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères a la haute main lorsque cette personne doit venir à une réunion au ministère des Affaires étrangères. C'est eux qui ont la haute main pour dire oui, il était là ou non, il n'était pas là. Et c'est eux qui répondent à la justice, oui, effectivement, nous avons vu monsieur machin ou non, nous n'avons pas vu monsieur machin. Et voilà, les difficultés, les réticences du ministère des Affaires étrangères se voient dans tous ces petits dossiers où, au lieu de mettre de l'huile dans les rouages, au contraire, ils mettent énormément de temps à répondre. Par exemple, trop longtemps pour que la personne puisse s'arrêter tout de suite, pour qu'elle puisse repartir, etc., etc.
Place au football, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Christine Larocque, juriste spécialisée dans les droits de l'homme au sein de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Simon Forman, avocat et président pour Amnesty International de la Coalition française pour la Cour pénale internationale. Et Joseph Bréham, également avocat, enseignant en droit international pénal à l'Université de Toulouse. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Nathalie Laporte et Alphonse Galland. Samedi prochain, Géopolitique vous sera présenté par Toufik Benaïchouch. À bientôt.